te fais un ciel bleu, un oiseau sur un fil, sous un grand soleil. Avec des yeux si tu veux, on se dessine une île.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Has Bazar.
Ici Alain Lalancette. Je vous invite au Jazz Bazar tous les dimanches de 17h à 20h sur les ondes de CKIA FM. Je vous offrirai alors un cocktail musical en jazz contemporain, fusion et métissage. Je vous accueille donc dimanche dès 17h au 88.3.
Vous aimez l'actualité? Des nouvelles vraies, des animateurs authentiques, des entrevues d'artistes captivantes et de la bonne musique? Recherchez l'application de l'ARCQ, l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec qui regroupe tout ça en un seul endroit. L'appli qui donne accès aux 37 stations de radio communautaires membres de l'ARC ainsi qu'à leur fil de nouvelles couvrant tout le Québec. Dans un paysage médiatique en pleine mutation où la multiplication des sources d'informations ne garantit pas toujours leur qualité, nos stations jouent un rôle crucial. Téléchargez l'appli ARCQ sur Apple et Google Play.
Si on changeait le discours sur la pauvreté?
Le vendredi 22 mai à Québec, participez à l'Agora pour un Québec sans pauvreté. Toute la journée, ateliers d'éducation populaire, micro ouvert, slam, exposition. Un moment pour mieux comprendre et pour s'exprimer. En soirée, spectacle gratuit avec Véronica Rioux, Coralie Laperrière, Ken Lo et Sarah May.
Les 22 et 23 mai au parc Cartier-Brébeuf.
Un événement familial, accessible et gratuit pour unir nos forces. Détails au pauvreté.qc.ca.
Dignité Noire. L'émission qui porte sur les communautés noires d'ici et d'ailleurs et qui s'adresse à tout le monde.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux.
Tous les lundis à partir de 19h sur CKIA 88.3 FM.
La Ligue d'improvisation musicale de Québec présente sa finale de la saison 2025-2026 le lundi 4 mai sur la scène de l'Impérial Belle. Qui des jaunes ou des rouges sera couronnée équipe championne de la 21e saison? Le lundi 4 mai à 19h30 à l'Impérial Belle, faut l'entendre pour le voir. Impromusicale.com.
Tous les jeudis, un buffet sonore aux saveurs vintage à CKIA. DJ Richard vous invite à déguster un menu relevé de pièces instrumentales et de chansons du 20e siècle en guise d'apéro musical. Passons à table pour le buffet de 17h.
Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier.
Bonjour, bienvenue à Épilogue. Aujourd'hui à l'émission, on vous dit que vieillir, c'est pas si pire. On vous parle du grand livre des souffles et on parle du roman, en fait non, du récit épistolaire de Nathalie Frédette. Bonjour à tous, bienvenue à cette émission d'Épilogue. Valérie Gaudreau au microphone en compagnie de la belle équipe d'Épilogue. Brian Saint-Louis derrière la console. Bonjour oui, Brian.
Bonjour, très bien.
Ça va très bien. Comment ne pas bien aller avec de la visite rare? Marianne Kay, qu'on n'a pas vu depuis un moment, en fait, à l'émission. Collaboratrice quand même depuis plusieurs années. Oui. Mais avec toutes les obligations que la vie nous amène et quelques mois passés en France aussi, on ne t'a pas vu à l'émission. Alors, ce sera un grand plaisir de t'entendre parler, je dirais, de mieux-être. Ou en tout cas, je trouve qu'on est beaucoup en mode solution ou mieux-être aujourd'hui à l'émission avec deux manuels, essais, textes en ce sens. Et tu vas nous parler de la respiration. Souffler par le nez.
Oui, exactement. C'est ce qu'on se disait avec Simon. C'est un champ d'intérêt, quand même, le livre sur la santé, développement personnel, qui est assez intéressant et qui se développe beaucoup de nos jours. Ma dernière chronique à l'émission, je pense, on parlait à l'époque du stress et du burn-out. Fait que c'est le genre d'outil que j'aime beaucoup. Et ce livre-là, ben, je sais, Valérie, que tu as toujours un regard sur le graphisme.
Oui,
c'est un objet très particulièrement beau. La couverture est très réussie.
Accessible aussi. Oui. J'ai hâte que tu nous parles justement du degré du docteur David O'Hare qui signe ce grand livre des souffles du caractère accessible ou davantage
Et c'est publié dans une très belle maison d'édition, Soukar Édition, qui se spécialise en nutrition, santé, bien-être. Donc, c'est très bien référencé.
Mm-hmm. Voilà. Le bien-être, c'est aussi de bien vieillir. Simon M. Poulin.
Oui.
Il y a quelques ouvrages d'ailleurs hein, sur le thème. Là, je sais que c'est à peu près sorti là, au printemps tout récemment autour du Salon du Livre. Et donc, vieillir, c'est pas si pire.
On va parler de ça justement parce que tout le monde veut rester jeune. Beaucoup se concentrent plus sur l'aspect esthétique, l'apparence de la jeunesse. Puis, je dirais, en faisant ma recherche pour préparer la chronique, on voyait certains chiffres qui sont absolument... comment je dirais ça?
Effarant.
Effarant. L'industrie du marketing pour tout ce qui est rajeunissement cosmétique, là, évalué par Fortune Business Insight, qui est une société indépendante indienne, mais qui est reconnue. On parle de 375 milliards US par année. Donc, en 2026, c'est la projection, en fait, actuelle. Mais que vous dirait mon docteur Lemire là-dessus? Mais lui, il vous dirait que c'est pas ça qui est important, parce que c'est qu'un aspect, la peau, les rides.
Tout à fait.
Et je vais vous présenter sa pensée là, dans quelques instants pour vous montrer que vieillir, c'est pas si pire du tout.
Une préface de Marguerite Blais, d'ailleurs.
Oui, j'en reparlais aussi.
Pour ma part, je vais vous parler d'une autrice, Nathalie Fredette, nue devant les fantômes, devant des fantômes. Lettre à mes éditeurs, c'est une réflexion sur la littérature, sur est-ce qu'écrire et être publié, c'est la même chose.
C'est quelque chose qui est en mouvance beaucoup maintenant, oui, oui. L'édition, ben, de la même façon que les acteurs de cinéma maintenant sont choisis en fonction du nombre de personnes qui les suivent sur Instagram, on a l'impression que des fois, ça teinte un peu beaucoup qui va être publié maintenant.
On parle beaucoup de ça. Elle élabore, l'autrice, plusieurs critères et certains mots MAUX de notre milieu littéraire, effectivement. Donc, je vais vous parler de ça en fin d'émission.
Bon, moi, je vais voir si j'ai le temps de vous parler de quelque chose, mais on n'annoncera rien tout de suite. Sinon, je vais m'occuper des pitons et de la musique. On va commencer en musique avec Lio. Peut-être que pour vieillir en santé, justement, il faut être l'amour de sa vie et se choisir et s'occuper de soi. C'est ça le message qu'elle envoie, Lio. C'est un nouveau disque qui est sorti il n'y a pas si longtemps. L'amour de ma vie.
Ma mère m'a dit la vie est courte et ouais, c'est vrai. Et quand je pense à moi, c'est vrai que je me plais. J'étais un peu banale dans les années 80. Mais cette fois dans le miroir, mon reflet me dit je t'aime. Je vois enfin un monde qui me plaît. Ça m'aide à me rappeler. Je me vois à l'infini, chaque pli, chaque trace quand je ris. Mon visage, une symphonie, je suis l'amour. Mon visage, une symphonie, je suis l'amour de ma vie.
Très énergisant, cette pièce en ce beau dimanche ensoleillé dans le quartier Saint-Roch, d'où la maison de la radio, de CKIA, ouais. D'où vous provient cette émission. Alors, on va en parler avec Simon M. Poulin. On a dit, on a parlé brièvement du livre « Vieillir, c'est pas si pire ». Alors, que nous dit le docteur Lemire?
Oui, bien, vieillir, c'est pas si pire et ça s'intitule aussi « Conseil d'un gériatre pour rester autonome et en forme ». Donc, c'est un gros plan quand on regarde juste à partir du titre. Mais il faut penser que c'est très, très bien présenté. Et donc, ça va être ça que je vais essayer de vous traduire dans les prochaines minutes. On a tout d'abord, pour bien mettre la table, c'est une préface de l'ex-ministre des Aînés, Marguerite Blais, là, qui a été ministre sous le Parti libéral et qui est revenue ensuite à la CAQ, qui assure que effectivement dans les dernières années, l'approche qui est présentée par le docteur Lemire, c'est l'approche du gouvernement, c'est la gériatrie sociale. Je vais y revenir peut-être, si on a plus de temps, on élaborera, mais le livre le présente très bien, on n'a pas besoin...
Est-ce qu'il a été conseiller officiel ou...
Il a été vraiment le précurseur, ouais. le promoteur de cette idée-là. Il y a eu un premier projet d'implanter ici dans la ville de Québec de gériatrie sociale, puis ensuite ça a fait école, puis ça s'est implanté un petit peu partout. Donc le livre ressort de tout ça, de la fondation Âge, qui a mis en place aussi plusieurs outils. Et donc, le docteur Lemire dit, dans une société où le vieillissement occupe vraiment de plus en plus de place, par le fait que les baby boomers vieillissent, par le fait aussi qu'on vieillit, on reste en vie plus longtemps. Donc, le vieillissement, c'est plus qu'une illusion pour quelques chanceux. C'est pas une illusion, mais une chance, moi, je devrais dire ça comme ça. C'est vraiment une donnée pour de plus en plus de gens. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les gens souhaitent vraiment rester en forme, autonome le plus longtemps possible et pas vieillir comme on a l'impression que c'est présenté. Donc, on ne veut pas une vieillesse dans le déclin. Là. On n'est pas dans un paradigme du déclin inévitable, solitaire, négatif. Alors, c'était ce changement-là qui avait déjà été amorcé par son livre précédent qui s'appelait « Vieillir, la belle affaire ». Alors là, il essayait de désamorcer tout ça, il essayait d'éliminer les préjugés, prouver qu'on peut être dans un âge très avancé aussi et demeurer fonctionnel, bien entouré, lucide, donc combattre tous ces préjugés-là. Et donc, il va nous présenter, c'est un plan, c'est une application complète pour rester en bonne santé. Lui, il va même dire, l'auteur, « Restez jeune ». Mais bon, on ne pourra pas rester jeune, mais avoir l'impression d'être toujours jeune, ouais. Donc actif, autonome, le plus longtemps possible. Puis, mais là, c'est sûr que l'auteur va le reconnaître, là, on ne peut pas tout prévoir. Hein? On ne peut pas prévoir les problèmes génétiques ou les maladies qui vont nous toucher sans qu'on ne puisse rien. Là, la COVID-19, c'est arrivé, puis je veux dire, avec des gens très, très en santé, il y en a qui ont malheureusement plus vieilli. Hein? Faut avoir une pensée pour ces gens-là qui n'ont pas pu avoir une longue vie à tant donner ça. Mais au-delà de tout ça, au-delà des fatalités biologiques, génétiques, ben il y a vraiment des éléments sur lesquels on peut contrôler, on peut avoir du contrôle pour la majorité des gens. Donc, on aborde le sujet en étant vraiment propulsé dans une prise de conscience. Une prise de conscience que la vieillesse se prépare d'avance. Puis tu disais tout à l'heure, micro fermé, Valérie, le docteur Lemire parle de autour de la vingtaine.
Oui, j'ai entendu dire ça en entrevue.
Bien, dès que la croissance est terminée, en fait, on devrait peut-être dire la fin vingtaine, parce que dès que la croissance est terminée, bien, le corps se met dans une autre position et met en place des éléments pour vieillir en santé. Là. Il y a une transformation du corps.
Donc, la santé, c'est comme les REER, il faut commencer tôt.
C'est tellement ça, il faut investir. Oui, tout à fait. Donc, dès les premiers signes de vieillesse, c'est-à-dire la fin de la jeunesse, il faut penser à comment on veut vieillir, comment on va investir dans notre vieillesse. Alors, c'est un peu étrange de toujours penser aussi à la vieillesse, peut-être à partir de 20 ans, 30 ans, mais c'est la façon de réussir sa vieillesse. Puis là, on pourrait parler de longtemps, c'est quoi réussir sa vieillesse aussi, là? Est-ce que c'est d'être comme Jeannette Bertrand, puis à 101 ans, être toujours autonome? Je pense qu'il y a différentes façons de réussir sa vieillesse. Mais de mettre en place les bonnes stratégies, et c'est ça que le livre nous présente, c'est vraiment très, très bien fait. C'est pratico-pratique. Des tableaux, des questionnaires, des questions qui nous mettent dans l'idée de qu'est-ce que vous faites maintenant? À quoi vous avez réfléchi jusqu'à maintenant sur votre vieillesse? Est-ce que vous avez des points faibles? Qu'est-ce que vous êtes capable de changer? Ça nous prend un peu par la main, mais c'est bien fait justement pour nous guider dans le bon sens. Moi, je voyais une grande analogie avec, je ne sais pas si on peut dire, des conditions gagnantes d'une grossesse. Quand on dit à la mère, tu prépares ton enfant pour sa vie, fume pas, bois pas, alimente-toi bien, fais de l'exercice physique. Elle le fait pour préparer la meilleure des vies de son enfant, sinon on sait par les études qu'il va avoir une incidence. C'est exactement ça. C'est de se dire, quand je vais arriver à la vieillesse, puis lui, il dit, la vraie vieillesse, c'est 50 ans. Là. Tu sais, il va plus miser à partir de 50 ans.
C'est ça, parce qu'on le sait à quel point le vieillissement de la population fait que ce qui était le troisième âge, on était vieux il y a 50 ans, à 70 ans. Aujourd'hui, on parle de 85 et plus. Là.
Bon, mais la vieillesse qui se met en place avec les petits problèmes de santé, c'est vraiment autour de 50 ans. C'est pas la vieillesse dans la tête. Là. Ça, c'est un autre aspect.
Donc,
c'est vraiment
on parle pas nécessairement de troubles cognitifs.
Oui, on parle, mais je veux dire, c'est pas comment toi tu te sens vieille.
Oui, pas,
là, c'est vraiment le corps qui a déjà des éléments qui se mettent en place là, pour avancer dans l'âge.
Mais je pense que notre objectif, c'est un peu tout. Tu parlais de Jeannette Bertrand. C'est peut-être pas de vivre jusqu'à 101 ans nécessairement, mais d'éviter le plus que possible de se retrouver dans un infâme CHSLD trop tôt. Donc, d'être capable d'être en forme le plus longtemps possible, d'éviter des maux de santé qui vont coûter très cher à l'État. Les soins de santé qu'on aurait pu éviter, ça coûte excessivement cher à la société. On se demande pourquoi on est endetté. Des fois, ça peut être des éléments de réponse qu'on se responsabilise le plus tôt possible. Mais là, tu me parles, fin vingtaine, là. Nous, on a fini ça il y a longtemps, la fin vingtaine ici. Dans quelle mesure il est déjà trop tard pour rattraper du temps perdu, là? Qu'est-ce que j'ai pas fait déjà?
C'est un peu comme les REER, là. C'est-à-dire qu'on peut quand même replacer des choses.
Mais faut qu'on en
vraie. Donner les bouchées doubles, peut-être. Faut vérifier nos habitudes.
Et trop tard pour commencer. Faut-il que j'ai ce livre-là à 22 ans ou à 40 ans?
Tous âges, parce que c'est l'approche de gériatrie sociale aussi. Donc, il y a des choses à mettre en place pour éviter le déclin rapide ou une espèce de dégringolade d'éléments de déclin. Donc, la science actuelle sait qu'il y a des façons de faire. Le livre, c'est un manuel sur la vieillesse réussie présenté de manière globale. Fait que là, à chaque fois, tu as un chapitre qui va te dire « ça, tu peux le faire. Si tu le fais pas, réfléchis à peut-être que tu pourrais ajouter ça. » Et on est dans plusieurs aspects. Je vais vous en nommer quelques-uns. Là. Donc, la forme physique, j'en ai parlé. L'acceptation de la communication avec les proches. OK? D'être en bonne communication avec nos proches pour parler de nos problèmes si on en a, pour parler de l'état où on est. L'importance de la santé de la peau, je l'ai nommé. La mémoire.
Oui.
Bon, voilà. Très, très important. Puis tout le système cognitif. L'alimentation, le sommeil, etc. Mais il y a un chapitre très, très important. Pour moi, c'est le chapitre le plus intéressant. C'est le chapitre 9. Sur la prise en charge individuelle de sa santé. On appelle ça aussi les auto-soins. C'est vraiment très fort pour développer l'autonomisation, l'empowerment. Par exemple, l'importance du patient dans le suivi puis la compréhension de sa santé. Alors que souvent, là, il y a des personnes qui arrivent dans les bureaux de médecins, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Lemieux, ils s'en remettent complètement à lui ou à elle en disant, ben le docteur, c'est tout. Là. Je vais arriver, puis il va me poser les bonnes questions. Mais non, le médecin, c'est pas un dieu de la médecine, c'est pas tout. C'est un partenaire de sa santé. Puis, à une page, on dit, il y a deux savoirs. Il y a le savoir clinique du médecin qui interprète les données recueillies. Puis il y a le savoir expérientiel du patient qui détient les signaux du quotidien, symptômes, mesures, observations, ressentis. Puis ce serait ça aussi pour vivre vieux, avoir une certaine compréhension de son corps, une lecture, une écoute, mais une littératie pour être capable de parler de ce qui se passe dans son corps, puis des bobos qu'on a, pas juste être un tomalou puis dire j'ai mal, mais tu sais, avoir une possibilité de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure pour indiquer au médecin qu'est-ce que ça nous prendrait.
D'observer les changements aussi.
Observer les changements. Pas être seulement un passif là-dedans, mais être actif. Donc, le docteur Lemire, lui, il va pas seulement de son expérience, c'est très, très appuyé. C'est des recherches, des résultats probants de ces recherches-là, des outils qui ont fait leur preuve avec la Fondation Âge, puis toutes les mises en place de gériatrie sociale, les expériences de gériatrie qui ont été placées. Puis, on en apprend beaucoup là-dessus.
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans le terme gériatrie sociale, peut-être pour les gens qui nous écoutent, quand on entend social, tu l'as dit hein, au début de ton intervention, le volet du réseau, du groupe, de se valoriser parce que la vieillesse, tu peux être en santé physique, mais avoir un désengagement ou de ne pas te sentir. Un des grands enjeux à mes yeux de la vieillesse, c'est quelle place on fait dans la vie politique, intellectuelle, dans la mémoire collective aînés. Toute la notion de après la retraite, l'engagement bénévole, la pertinence d'intervenir encore, que ce soit dans les médias, évidemment, c'est mon domaine, mais de ce côté, je dirais, vie publique des aînés, est-ce qu'il l'aborde?
Il va aborder plutôt l'implication comme si sociale, pas nécessairement la vie publique, là, mais l'importance de demeurer actif socialement, de se trouver des lieux de
passion,
communication,
en fait.
De continuer à socialiser.
De continuer à socialiser, mais comme tous les aspects sont couverts, c'est un chapitre. Seulement. Mais ça fait partie. Quand on parle de gériatrie sociale, c'est plutôt né de l'idée de pédiatrie sociale qui est appliquée depuis longtemps.
Docteur Julien.
Et puis là, on voulait que le milieu puisse être soutenant, qu'on puisse avoir une action tôt, directement sur les aînés, pour les soutenir, pour les garder autonomes le plus longtemps possible, pour pas que les problèmes progressent au point qu'il serait difficile d'agir, puis qu'on puisse plus rétablir la situation. Fait que là, il en parle quand même, il y a une section là-dessus si ça vous intéresse, donc de bien comprendre la petite histoire, puis les éléments qu'ils ont expérimenté. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour... oui, j'aimerais vous en parler, parce qu'on a un bel exemple, comme ça, après ça, on pourra terminer là-dessus, mais vous allez comprendre un peu toute l'approche de ça. Alors, on a un exemple de gériatrie sociale en action. Alerte, un homme ayant fait une chute chez lui appelle le 911. Sur place, les ambulanciers constatent qu'il a de la difficulté à se déplacer et que son logement est mal entretenu, voire insalubre. Après s'être relevé, l'homme refuse d'être transporté à l'hôpital. Avec son accord, les ambulanciers lancent une alerte à l'équipe de gériatrie sociale. Visite. L'homme accepte la visite à domicile de la navigatrice. C'est un terme des intervenants plus. Il y a les sentinelles qui sont avant ça, puis il y a les navigateurs, navigatrices. Un contexte moins menaçant pour lui que la visite du CLSC. Mais dès son arrivée, la navigatrice observe plusieurs problèmes. Santé, hygiène, humeur, consommation et salubrité du logement. L'homme présente des plaies à une jambe et se sent étourdi en se levant. Est-ce la raison de sa chute? On l'ignore. Intervention, l'infirmière en gériatrie sociale est interpellée. Elle évalue la santé physique et mentale du patient. Elle commence les soins de la plaie avec lui, puis mobilise une infirmière du CLSC, car la guérison prendra probablement plusieurs mois. Constatant des baisses de tension, elle fait appel au pharmacien qui révise la médication. Très important, je ne l'ai pas mentionné, mais la surmédicamentation, la compréhension des interactions entre les médicaments, il y a tout cet aspect-là aussi parce qu'on accumule les prescriptions plus on vieillit et on continue des fois des choses qui ne devraient pas être continuées. Donc, il révise le pharmacien la médication et coordonne les changements nécessaires avec le médecin. Donc, grâce à l'alerte lancée par les sentinelles paramédicales, au lien avec l'équipe de gériatrie, la cascade de vieillissement accéléré est interrompue et un lien de confiance est établi sur lequel on pourra construire.
Donc, c'est un bel exemple. Pour employer l'expression, le continuum là, de chacun a son aspect intéressant.
Alors, je conclurai en disant que si vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté, avoir un maximum d'atouts dans votre jeu, là, de vous procurer absolument ce livre-là. En tout cas, moi, ça va être mon cadeau, mon prochain cadeau pour tous mes amis qui vont atteindre la cinquantaine.
Oh, oh, c'est vraiment tactique.
Très bon.
Oui, oui, oui.
Ça, avec une petite carte de la FADOC en signée.
Ah, mais ça, c'est insultant, par exemple. Je ne ferais pas ça.
C'est la blague dans mes amis aussi.
Fait que c'est pas une fontaine de jouvence, là, mais c'est vraiment une manière pour pouvoir avoir un impact réel sur son vieillissement. Donc, vieillir, c'est pas si pire. Conseil d'un gériatre pour rester autonome et en forme par le docteur Stéphane Lemire aux éditions du Précaré. C'est paru le 15 avril dernier. C'est tout frais.
Merci, Simon.
Un jour on sera heureux à danser l'un contre l'autre sans se soucier de tous les autres. Un jour on sera vieux, un jour on sera bien mieux que la vie s'apprécie bien quand c'est fini. On aura tout le temps du monde pour s'embrasser et je te sourirai comme la lune. De se rappeler de tout, de rien. Dieu, que la vie finit bien. Allez, dis ce que tu en penses aujourd'hui. Un jour on sera vieux, un jour on sera heureux à danser l'un contre l'autre sans se soucier de tous les autres. Un jour on sera vieux, un jour on sera bien mieux.
L'entendre, Brian Saint-Louis, sur
c'était
les
ondes. C'était Mitsou, toi, chose.
Ah, quand même. Voyons, oui. J'avais pas...
Avec sa chanson, les vieux, parce que quand on vit vieux, on peut vivre heureux ensemble aussi. Voilà, plus d'amour si on vit plus vieux.
Oui, et d'amour de soi, prendre soin de soi aussi. Et on poursuit un peu, je dirais, presque un lien avec la chronique de Simon, Marie-Anne Kay. On parle de... du souffle. Alors, on est encore dans les sujets là, santé. Je trouve ça très intéressant. C'est, dans les deux cas, je pense que c'est un peu une prise en charge, je dirais, personnelle. Dans ce cas-ci, le souffle, on néglige peut-être hein, son impact sur l'anxiété, la méditation, oui. La relaxation. C'est de ça dont parle ce livre du docteur David O'Hare.
Exactement. Et comme Brian le soulignait juste avant qu'on retourne en onde, ça peut être un bon outil pour les aînés aussi qui veulent se maintenir en santé dans le cadre, par exemple, d'une pratique du yoga. Donc, c'est aussi bon pour le corps que l'anxiété. On parle aussi dans le sous-titre anxiété, stress, rumination, douleur, digestion. Donc, il y a beaucoup de tracas, de petits mots physiques qui peuvent être allégés avec cette technique-là. Mmh. Donc, le docteur David O'Hare est un médecin diplômé, spécialiste international de la cohérence cardiaque. Il a un très grand pédigré dans cette matière qui est vraiment, je dirais, depuis une dizaine d'années, c'est une des méthodes de méditation, les, je dirais, plus spécifiques, où on enseigne aux gens un peu, si vous en avez déjà entendu parler, comme méditer en carré. Donc, tu inspires 5 secondes. Par exemple, tu attends 5 secondes, puis tu expires de nouveau 5 secondes. Bon, là, pour le coup, c'est en triangle, mais c'est un peu le genre de méthode où on se donne un outil pour nous aider à ralentir notre respiration et être à l'écoute de notre souffle. Donc, il y a vraiment énormément de façons de l'enseigner. C'est une méthode très puissante. Et donc, Dr. David O'Hare forme justement des thérapeutes, des professionnels et des coachs à ce genre de techniques qui sont tout de même assez anciennes. Si on prend par exemple une des méthodes, plus, justement le Tao, qui est une méthode asiatique, le yoga, qui est souvent d'inspiration indienne. Donc, dans les sources du yoga, on apprend par exemple le pranayama. Donc, le prana, c'est le souffle.
Tu connais ça, toi, personnellement? Oui. Donc, ce livre-là t'interpellait aussi parce que tu sais... Tu connais un peu l'application physique des concepts dans tes questions.
Exactement. On parle aussi de l'insomnie quand vous pratiquez du pranayama avant de vous coucher. Pendant plusieurs minutes, ça peut vraiment vous aider à calmer l'insomnie.
Je l'ai fait souvent.
Ouais. OK, tu l'as pratiqué, oui.
Pas de cette technique-là, mais c'est effectivement dans les... Parce que tu as un certain contrôle du souffle. Alors, tu peux prendre conscience que tu n'es pas toujours dans une respiration... longue, lente, et puis ça met ton corps dans un état de stress. Quand tu te rends compte que tu respires par petits coups, c'est une bonne prise de conscience. Là. Puis là, tu peux avoir un effet. Mais est-ce que ça va dans ce sens-là aussi?
Oui. Tout à fait, ce que tu expliques, je ne suis pas assez versée dans cette théorie-là, mais on parle du système nerveux sympathique et parasympathique, donc comment la respiration peut t'aider de switcher dans le mode de relaxation profond. Et donc, on a tout un lexique à la fin du livre qui parle vraiment des bases scientifiques de ce mode-là. Donc, c'est vraiment un des outils principaux. Étant quelqu'un qui a une attention un peu dispersée, souvent se motiver ou se concentrer à demeurer dans l'exercice est un enjeu. Dr. David O'Hare utilise beaucoup d'outils qu'il appelle des ingrédients. Donc, par exemple, se concentrer sur une zone du corps. Donc, par exemple, on peut se concentrer sur le ventre quand on expire et qu'on veut vider les poumons. Il y a aussi des techniques quand on veut aider des maux de relaxation. Par exemple, si notre dos est barré, il dit essayez de visualiser une pierre chaude dans le bas de votre dos. Et ce concept-là de visualiser un élément du corps, ça aussi, ça va être un déclencheur de la respiration et de se relaxer. Il utilise un élément aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est l'intention. Donc, par exemple, il y a une des techniques que j'aime beaucoup, ça s'appelle le hamac du mental. Quand vous avez du brouillard mental, par exemple au travail, ou vous avez un esprit dispersé, ou peut-être vous avez pris trop de café, donc là, on arrive
à côté un peu là, d'agitation mentale.
Agitation. Donc, il utilise, par exemple, le fait de visualiser un hamac et il donne un exercice pour compter les secondes et se focusser sur la respiration en visualisant vraiment un apaisement. Comme tu le disais, Simon, pour l'importance des relations sociales, on met aussi quand même beaucoup l'accent dans ce livre-là. L'éditeur aussi, Thierry Soukar, mettait de l'avant cette technique-là qu'il a appelée la trame. Donc, il suggère d'utiliser une certaine respiration pour quand après une dispute, quand on se sent le cœur serré ou l'esprit agité, que ça c'est quelque chose qui
se fait
envahit, voilà.
Comme disent les jeunes, live, là, c'est-à-dire, voilà. Oui. C'est pas que des moments précis choisis dans une semaine ou dans une journée. C'est dans le quotidien qu'on peut.
Exactement, c'est ça. Donc, ça peut s'appliquer à tout instant de la vie ou quand on est traversé par un état d'âme en particulier. Ça peut être une tristesse ou de la joie. Il y en a une aussi qu'il pratique au sujet des problèmes digestifs. On sait que depuis Julia Engels, l'autrice qui a parlé Le monde de l'intestin. J'ai oublié le nom du livre qui était un meilleur vendeur il y a quelques années, comme quoi l'intestin serait notre deuxième cerveau, oui, qui oui, a oui, beaucoup de choses qui se décident à cet endroit-là. Donc, vraiment, c'est un bonheur. Il y en a pour tous les goûts. Donc, autant pour les personnes, comme on disait, qui pratiquent déjà la respiration comme un outil. Puis, c'est agrémenté de belles illustrations. Donc, là, celle-ci, vous voyez la base, j'ouvre. On nous permet de visualiser une montagne. Quand on peut être dans un état de stress chronique où on voit tout comme une montagne à monter. OK, j'ai beaucoup de projets, puis ça ne s'arrête pas, puis il faut que je livre. Bon, ben là, il dit, ben, par exemple, visualisez-vous que vous venez de monter une première petite montagne, puis là, vous êtes dans le creux, donc il faut se reposer avant d'embarquer à continuer la prochaine. Donc, c'est ça, c'est vraiment psycho-émotionnel, puis en même temps, ça nous... Il y a parfois aussi des aspects pointus, donc on vous explique vraiment la régulation cardiovasculaire, par exemple, donc un bon outil de connaissance du corps.
Avais-tu l'impression qu'on peut... que ça prend beaucoup de temps pour acquérir chacune de ces méthodes-là ou c'est des méthodes quand même assez simples?
Tu as parlé de graphisme d'émission. Est-ce qu'on nous montre? Est-ce qu'on comprend bien avec le livre? Y a-tu des dessins? Y a-tu quelque chose?
Oui. C'est assez bien imagé.
Okay.
Parfois, bon, ben là, quand on nous explique au début les zones de mobilisation, donc on parle de la zone abdominale. Bon, par exemple, poser sa main sur le bas du ventre ou à l'endroit du diaphragme, ça peut nous aider à prendre conscience, en effet, quand nos poumons se vident ou c'est quelque chose qui peut nous aider à ramener l'attention sur la respiration. Donc, oui, c'est assez bien imagé. Illustré parce que, comme tu le dis, Brian, des fois, comme on explique la technique à l'écrit, ça peut être après un enjeu de le pratiquer.
Le degré, je dirais, comme revenir à la question de Simon, le degré de difficulté, est-ce qu'il est modéré?
Oui, mais c'est que, comme je disais en entrée, Dr. David Ware, il forme des spécialistes des gens sur le sujet. C'est son deuxième ouvrage là-dessus. Il y avait déjà publié 365 jours de cohérence cardiaque. Donc oui, ça demande quand même certaines personnes, je pense, qui pratiquent déjà minimalement la méditation ou de la respiration, comme tu disais, Simon, parce que c'est ça, quand on n'a pas certaines bases... Il faut déjà connaître un peu l'enjeu de la pratique de la respiration pour peut-être en trouver une utilité supérieure.
Peut-être additionner à de la pleine conscience ou des éléments comme ça pour vraiment aller chercher ailleurs. Je me rappelle une de mes ostéopathes qui me disait, quand elle me donnait un soin, « Respire dans ta blessure ». Fait que je connectais avec ce que tu disais. Fait que c'est dans une approche de prise de conscience de cette blessure-là. Puis la respiration vient, je sais pas par quel effet, là, mais viens alléger ton poids ou ta souffrance. Donc, respire dans ta blessure. Mais c'est pas évident. Puis, est-ce que tu dirais qu'après la lecture de ça, on en ressort vraiment grandi? Est-ce que tu le recommandes? Parce que moi, j'ai un peu peur de toutes ces techniques-là. Des fois, je suis un peu comme ça. Il y a beaucoup de techniques à apprendre. Laquelle je prends? Laquelle je garde? Est-ce qu'on en sort un peu confus ou non? Finalement, c'est l'inverse. On a plusieurs outils pour par la suite...
Oui. Je me reconnais dans les techniques que ta thérapeute a enseignées. Puis... souvent, quand je me dis « Oh, ben tiens, là, c'est un bon moment où je pourrais ouvrir le livre », ça me fait le même effet, c'est que je me dis « Oh, j'avais juste besoin de m'arrêter de respirer pour prendre conscience du nœud émotionnel que j'avais ». Parfois, ça m'arrivait pendant une ou deux fois où j'en ai pratiqué où, ouf, j'ai pleuré quelques secondes parce que je sentais qu'il y avait une émotion en arrière dont je n'arrivais pas à prendre conscience. Et en fait, elle était là, c'était une émotion qui demandait à être prise en conscience et ça, prise en compte. Donc oui, c'est vraiment... j'ai pas de doute que ça peut faire du bien à tout le monde et je fais confiance à... Des fois, au hasard des pages, ça vous fait ça. Ah. Des fois, on ouvre un livre au hasard puis on dit « Ah, ben tiens, finalement, ce que je viens de dire, c'est le message dont j'avais besoin. » Ça m'a fait ça à chaque fois. je parle du hamac et de celle sur le brouillard mental qui m'a vraiment, vraiment aidé cet hiver. Donc oui, je suis assez confiante que ça peut être un bel outil pour tous.
Et le constat de base, hein, moi, souvent, il arrive dans une journée de stressé, ça m'arrive par exemple en fin de journée, puis là, je marche pour revenir du bureau, puis je respire, puis des fois, j'ai l'impression que c'est le premier vrai souffle que je prends de la journée.
Oui, hein,
quand on dit, là, je respire plus. C'est pas pour rien que c'est passé dans le langage. Hein. J'étouffe de travail, de journée. Et des fois, on fait juste s'arrêter puis on en prend conscience. Je ne sais pas s'il y a un constat là, sur le nombre. On parle de faire des 10 000 pas par jour. Je ne sais pas combien de respirations qui ont de l'allure on prend par jour. Mais je pense qu'on est en dessous de la moyenne dans nos sociétés modernes.
Effectivement, oui, c'est ça. Fait que, d'où l'importance. Il y a différentes statistiques dans l'ouvrage. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que le concept, on n'a pas besoin de la pratiquer pendant des heures. Des fois, il y a certaines méditations, on dit, bon, il faut méditer pendant une heure par jour. Mm-hmm. Bon, ça peut être difficile à placer mm-hmm. dans son horaire. Lui et Dr. David Hoare nous donnent un outil pour le pratiquer en 3 à 5 minutes par jour. Ah, fait que c'est bon. Très accessible.
Wow. Wow. Alors, ben, merci beaucoup pour ce grand livre des souffles de Dr. David Hoare. Effectivement, très beau, très bel objet aussi illustré. Merci, Marianne.
Et le livre dont tu parlais, j'ai trouvé le titre pendant ce temps-là, ceux qui s'intéressent aussi, Le charme discret de l'intestin. Mmh, voilà.
C'est beau titre.
Tout
voilà.
Sur un organe mal aimé de Julie Anderson.
Dans Vieillir, c'est pas si pire. Il y a un chapitre au complet aussi sur ça, mais on dit que c'est un chapitre tabou, alors j'en ai pas parlé.
Sur la santé intestinale?
Oui.
Non!
Et de la vessie.
Mon Dieu, que vous nous donnez du stock. On va respirer et on va vieillir.
On va transformer Épilogue en émission Santé bien-être. Vraiment, ça vous va bien, Simon et Marie, ce segment. Alors, pour ma part, je reviens au monde de l'édition après cette pièce avec Nu devant des fantômes de Nathalie Fredette.
On va continuer avec Le souffle, comme un souffle, Joseph Tambert, oui.
Et on souffre à rêver. aimé comme un souffle en été.
Alors voilà, vous êtes de retour sur les ondes de CKIA FM, émission littéraire épilogue. Et pour c'est mon tour.
Dernier droit, alors, oui, Valérie.
C'est rare que je n'ai pas une personne en entrevue. J'ai fait la demande pour Nathalie Fredette.
Mais elle ne pouvait pas venir nous voir aujourd'hui.
Non, en fait, plus que ça, elle n'accorde pas. Je le mentionne, parce que ça peut être intéressant. Moi, à l'aise, un peu plus d'entrevues radio. Et c'est intéressant parce qu'il est question notamment de sa timidité dans ce livre qui s'appelle « Nu devant des fantômes, lettres à mes éditeurs aux éditions Pleine Lune mm-hmm. » de Nathalie Fredette. Elle a écrit, elle, depuis 1992, particulièrement de 1992 à 2012, un peu de littérature jeunesse, a été publiée notamment chez Québec Amérique, quand même 4 titres pour adultes, 7-8 titres pour la jeunesse. Mais ça fait quand même plus d'une douzaine, quinzaine d'années qu'elle n'a pas publié. Le livre parle de ça, en bonne partie. C'est une femme, une autrice qui écrit, s'adresse à des éditeurs, c'est des lettres fictives, mais c'est quand même, on peut et on le comprend aisément, ce qui est arrivé, en tout cas, assurément, en bonne partie à cette autrice, Nathalie Fredette. C'est une occasion de revenir sur sa carrière à elle, parce que, bon, elle mentionne notamment une entrevue radio qui a été difficile à sa première sortie, le milieu littéraire, un séjour, une bourse en France, le rapport, comment on regardait. On parle aussi des années 90, donc on est dans un petit peu dans une autre... comment l'auteur québécois était perçu là, dans des résidences comme ça. Mmh. Ou, alors, c'est comme si elle parle du milieu littéraire, elle le connaît depuis 30 ans, mais c'est quelqu'un qui se sent, je pense, un peu en marge du milieu littéraire. Et dans ses lettres, ça passe, cette réflexion sur qui est édité, comment fonctionne le milieu. Il y a d'ailleurs des lettres fictives, mais... nous qui aimons beaucoup les maisons d'édition et on les connaît, il y a quand même des clins d'œil, par exemple, les éditions Alto Réel, on peut penser que c'est Alto, les éditions Ici Maintenant, on devine l'instant même, c'est jamais nommé, mais on voit que c'est une occasion, donc, de... Et là, on rentre dans le ton, hein, parce que, bon, est-ce qu'on parle de régler
est-ce
des
qu'on
comptes?
Est dans le règlement de compte, oui, ou dans,
l'amertume, je dirais qu'il y a quand même un peu de l'auto-analyse, d'elle-même, analyse du milieu. Elle écrit à un moment donné à un éditeur en disant, « Bon, je m'adresse à vous. Vous n'êtes pas un éditeur A, là. Vous êtes comme moi. Vous êtes comme un B. » Tu sais, du genre, bon, c'est peut-être pas les 4-5 grandes maisons là, qui font le buzz aujourd'hui, mais comme il y a toujours 4-5 écrivains qui font le buzz, d'autres qui cheminent, qui continuent d'écrire, qui changent d'éditeur, puis elle nous raconte quand même les coulisses aussi de l'édition. Surprenant parfois qu'un auteur établi change d'éditeur. Comment ça se fait que ça se poursuit pas toujours, cette relation, hein? Parce que la réflexion qu'elle pose, Nathalie Fredette, c'est... est-ce que si je suis pas publiée, j'écris quand même, en fait? C'est ça, c'est d'écrire un peu coûte que coûte, peu importe, mais en même temps, on veut être lu. En même temps, elle a elle-même refusé ce qu'elle nous raconte à travers ses lettres. C'est qu'elle n'a pas non plus, que ce soit par intérêt, par timidité, par réflexion sur le livre, eu envie peut-être de jouer non plus ce jeu du livre, par exemple dans les médias, où moi je me souviens, elle ne le cite pas, mais c'est une réflexion, je me souviens pas si c'était... Il me semble que c'était Daniel Laferrière qui avait déjà... Ou Stanley Père, je crois, qui avait écrit... l'auteur... Le livre est devenu le produit dérivé de l'auteur. Hein. C'est comme si, dans les médias, ben c'est comme... Ah oui, en passant, on a acheté votre livre, mais est-ce qu'on l'a lu? Fredette l'a dit, un best-seller, c'est pas nécessairement le livre le plus lu, c'est le plus acheté. Et je vais peut-être vous lire un extrait qui donne un peu le ton, parce que Brian, tu demandais, puis c'est la question, je pense, qu'il faut se poser dans ce livre. Est-ce que... est-ce qu'on parle d'une revanche contre le milieu littéraire?
Une analyse,
je pense qu'il y a une certaine sérénité malgré tout. Elle dit, même à supposer que l'écrivain trouve finalement preneur pour son livre, ce qui n'est toujours pas mon cas, il rencontrera d'autres problèmes susceptibles de miner son euphorie. Absence de recension, mauvaise critique, manque de visibilité, séance de signature décevante, retrait hâtif du livre en librairie, nombre minimum d'ouvrages vendus, pilonnage, chute dans l'oubli. J'ai au sous-sol des caisses pleines de livres que j'ai rachetés pour éviter qu'ils soient détruits. J'aurais pu empiler les boîtes jusqu'aux solives et je ne suis pas même certaine de pouvoir me réjouir, comme le suggère Éric Chevillard, du fait qu'un vendu soit le contraire d'un vendu. Mais que voulez-vous que je vous dise? L'essentiel n'est pas là, puisque les écrivains continuent à écrire malgré tout, malgré les rebuffades, les rejets, les refus, les silences, les mauvaises critiques, la patience, vertu des mendiants. C'est bien pourquoi les écrivains sont des mendiants souverains qu'on ne devrait en aucun cas mépriser ou ignorer. Alors, le geste d'écrire, il est extrêmement célébré dans ce livre. Le geste d'éditer, ben, il est plus remis en question quand même sur certains critères. Ça nous force à la réflexion. Je ne sais pas si le livre qui a, en tout cas, est-ce qu'il existe? On ne sait pas. Elle manie aussi la fiction, mais on comprend. Nathalie Fredette, évidemment, ne vit pas de sa plume. Ça n'a jamais été le cas. Elle est conseillère à la SAQ. Et moi, je vous le dis, là, si vous entendez les éditeurs, si ce livre a véritablement été refusé, parce qu'évidemment, il y a peut-être un jeu là, de... Mais elle a écrit Les Vinochondriaques, qui en fait, c'est des nouvelles sur notre rapport à l'alcool basées sur des anecdotes de conseils à la SAQ. Alors, le pire, c'est que si c'est véritablement que ça existe, ce manuscrit, j'aimerais lire, en fait, parce que je pense qu'on a quand même une réflexion hein, sur notre rapport à l'alcool, les modes, la société d'État. Enfin, je suis certaine qu'il y a des anecdotes ou des histoires qui peuvent être extrêmement intéressantes. Alors, cette job, évidemment, alimentaire nécessaire, elle dit, c'est mon gang-pain, mon gang-vin. Alors, voilà. Donc, c'est
sûr que... Mais l'édition n'est pas c'est vu comme étant l'achèvement de tout processus d'écriture, mais c'est qu'une autre étape avant justement de se rendre en librairie où le succès n'est pas garanti. Il y a énormément de livres qui... Nous, on les voit, là, la pile de livres publiés chaque saison. Chaque livre n'obtiendra pas de succès. Chaque livre ne sera pas vendu. Les recensions dans les médias, le buzz. Puis là, comment les choix sont faits maintenant. Puis tu le mentionnais aussi hors micro, je crois, l'expérience, entre autres, qu'on avait faite à un moment donné de renvoyer un roman d'Anne Hébert qui avait été...
Chez des éditeurs
qui avait eu énormément de grands prix à l'époque et qui avait été refusé par tout le monde, alors que c'est un roman qui avait gagné le Goncourt, quelque chose comme ça.
Et elle en parle aussi. Ils sont nombreux, même, extrait de la page 67, ils sont nombreux, même parmi les écrivains célèbres, à avoir connu une déconvenue solide, un refus catégorique, un silence écrasant. Knock, 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 and on heaven's door. Beaucoup d'appels, peu de rappels.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un milieu compliqué. Un manuscrit refusé, ça ne veut pas dire que ce n'était pas un bon manuscrit. Un livre qui est publié, ça ne veut pas dire que c'est un bon livre non plus. La notion de végétariat prend de plus en plus de place aussi. Ouais. Je sais qu'il y a des questions intéressantes qui sont soulevées dans ce livre-là.
C'est intéressant. C'est exactement ce qu'elle soulève. La question... l'acte d'écrire, il est au-delà de la publication, mais on sent quand même, je dirais, une certaine amertume, pas nécessairement acide, mais caustique, en tout cas par moment, de l'autodérision, de la dérision envers le milieu aussi. Mais on sent quand même ce désir profond aussi d'être connu, d'être lu.
Puis as-tu l'impression que Pleine Lune prend une chance de se placer en porte-à-faux avec les autres maisons d'édition en publiant ce genre de...
Je pense pas. Je pense qu'on est quand même dans l'acte. Quand je te dis, je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à Nathalie Fredette, c'est de dire, est-ce que ce livre Vinochondriaque existe pour vrai ou si sa réflexion est telle qu'elle l'a même mis en scène? Et là, on est dans la littérature.
Dans la fiction.
Voilà.
Bon, on a le temps pour une dernière petite pièce avant le mot de la fin, donc on va partir en musique. On vous revient tout de suite après.
Quand le soir descend sur terre, quand le feu se noie dans la mer, quand la peur se glisse dans l'air, les enfants récitent leurs prières, quand la pluie frappe au carreau, le brouillard est en son manteau, quand le vent
faiblissent les yeux de mon père. Quand s'en vont mes sœurs, mes frères, vivre des amours éphémères. Quand l'automne a tout fané, arrachant la vie semble s'arrêter. Tu es là, 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 ma lumière, mon soleil à moi. Tu es là, 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 et plus rien ne m'arrivera. Tu es là, 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 je suis bien blottie dans tes bras. Tu es là. Un jour tu disparaissais, sans un cri je tomberais, d'un seul coup tout s'écroulerait. Mais je t'aime, alors pourquoi voudrais-tu t'éloigner de moi? Oui je t'aime, et quand j'ai froid, je me chauffe à ton feu de joie. Tu es là.
Voilà, c'est sur ces notes que se termine cette édition d'Épilogue, magazine littéraire de CKIA FM. Je rappelle que je vous parlais de Nu devant des fantômes, lettre à mes amis éditeurs chez Pleine Lune. Simon, tu nous parlais de Vieillir, c'est pas si pire, du docteur Stéphane Lemire, un autre docteur, David O'Hare, le grand livre des souffles dont nous parlait Marianne Key. C'est un grand plaisir de te retrouver. Peut-être pas d'ici la fin de la saison, on se dira peut-être à l'automne, la saison file. Très rapidement, il ne reste que 3 semaines. C'est Valérie Gaudreau qui vous souhaite une excellente semaine. La semaine prochaine, on rencontre Pierre-Luc Gagné.
Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Fan de rock progressif, Profil, c'est votre référence depuis 30 ans. Découverte musicale, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h. 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découverte musicale.
Une émission qui détend et informe, ça existe. Une heure durant laquelle on vous entretient de faits intéressants, distrayants, mais qui ne sauvent pas des vies. On traite de politique municipale, de la participation des citoyens aux consultations publiques.
À l'occasion, une émission thématique sur une situation particulière, on vous présente des organismes de proximité qui peuvent vous aider à obtenir ou développer le service nécessaire pour améliorer votre quotidien. Parce que Robert,
il n'est jamais trop tard.
Lundi, 18.
Le discours doit changer, parlons de pauvreté. Samedi 23 mai à Québec, joignez-vous à la manifestation nationale pour un Québec sans pauvreté. Un grand rassemblement festif et engagé, marche militante, gala de lutte à la pauvreté de la NSPW, DJ Lovely.
Parce que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques.
À la veille des élections, faisons entendre nos voix et remettons les droits humains au cœur du débat public.
Le 23 mai, dès 11h, au Parc Cartier-Brébeuf.
La Ligue d'improvisation musicale de Québec présente sa finale de la saison 2025-2026 le lundi 4 mai sur la scène de l'Impérial Belle. Kid et des jaunes ou des rouges sera couronnée équipe championne de la 21e saison, le lundi 4 mai à 19h30 à l'Impérial Bell, faut l'entendre pour le voir. Impro musical.